Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Salut à tous, ça fait super plaisir de vous retrouver dans le rétro, encore plus que d'habitude, parce que là, c'est la dernière fois qu'on partagera ce voyage dans le temps ensemble. Dans le rétro, c'est la dernière, et pour nous accompagner aujourd'hui, une invitée qui représente tout ce qu'on aime dans cette émission. Elle est sympa, elle se la raconte pas, authentique, empathique et pleine d'autodérision. Bon, elle est chiante aussi, hyper fertile. Et un détail futile sur lequel on reviendra, elle est restée pucelle de la langue jusqu'à 13 ans.
Je m'entraînais qu'avec des gommes et pas des mecs. Hein. Forcément, ça aide pas.
Avec des gommes?
Ah, mais ça y est, je commence.
Parce que non. Vous allez nous le raconter tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Comme ça, chers auditeurs, chères auditrices, vous restez à l'écoute. Bonjour Élodie Gossoin.
Ah, bonjour Déborah. Je suis ravie d'être là et très honorée, surtout pour cette dernière. C'est un cadeau pour moi aussi. Je suis très émue du coup, vraiment.
Oh, ça me touche. Mmh. Ça me touche, mais on va pas pleurer maintenant.
Non, d'accord, ok.
Bon, ça fait super plaisir en tout cas de partager cette dernière émission avec vous. Élodie Gossoin, vacances bientôt?
Vacances à moitié, puisque je serai, c'est mon cadeau de l'été, je serai à la tête de Stop ou Encore tout l'été sur RTL, tous les week-ends.
Non mais faites pas de pub, parce que tout le monde va se barrer pour venir vous écouter.
Si, s'il vous plaît, venez, on va s'amuser tout l'été ensemble.
Élodie Gossoin, c'est quoi pour vous les vacances idéales?
Les vacances idéales, c'est de retrouver ma tribu, mais la tribu de 14, c'est-à-dire mes parents, ma sœur, mon frère, mes neveux, nièces, évidemment mon mari et mes enfants.
C'est pas des vacances ça?
Ah, mais si, parce que moi c'est plus que tout, c'est de cultiver ça, et d'être là, l'apéro, le bon barbecue, la partie de pétanque, c'est ça la vie.
Ouais, mais vous dites ça parce qu'en fait c'est vos parents qui s'occupent des gamins, non?
Et de la nourriture.
Ah voilà.
Bah ouais, ça aide.
On parle de vacances, et Élodie Gossoin, parce qu'on vous retrouve en ce moment sur M6 pour une compétition entre différentes régions. Mmh. Un jury, donc il y a vous, Christian Etchebest et Lauriane Jepner, hein,
oui,
c'est ça.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
Ça s'appelle la meilleure destination vacances. Le jury va se baser sur 4 critères, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Il y a quoi, donc, en gros? Il y a la carte postale, panorama.
C'est ça, le lieu vraiment, enfin, symbolique du paysage, le cadre de vie, etc. Il y a le critère gastronomie, spécialité locale. Alors, évidemment, jugé à la base par Christian Etchebest, grand chef basque.
Frère de Philippe Etchebest?
J'ai cru, bien sûr. Je lui ai demandé direct. En fait, rien à voir. Pourtant, en plus, ils se ressemblent un peu même dans l'état d'esprit. Donc, c'est très, très troublant, vraiment. Lauriane, elle s'occupe du trésor caché du lieu, c'est-à-dire vraiment un petit truc. On ne le sait pas. Si tu viens en touriste, tu le sais pas.
Petite pépite
du coin. Et moi, je fais la cobaye Miss Catastrophe. Je teste les trucs, mais maladroite comme je suis,
vous n'êtes pas Miss Catastrophe.
C'est mon surnom depuis toute petite. Ouais.
Bon, c'est l'occasion de découvrir des personnalités, des commerçants locaux, des lieux touristiques. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué particulièrement?
Enfin, c'est justement ce qui m'a marqué, ce sont les rencontres. Ou alors justement les rencontres avec des a priori que moi-même j'avais, parce que j'en ai plein. Notamment pour des activités comme la pêche à la mouche. Alors même quand je le dis encore aujourd'hui, je souris. Parce que je dis, moi j'ai fait de la pêche à la mouche. Où tu te dis, oh là, ça va être chiant, ça va être long, il faut patienter, c'est pas vraiment une activité, c'est pour les personnes âgées. Pardon, mais j'avais plein d'a priori. Ouais. Et j'ai passé un moment merveilleux parce que j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Et au contraire, il y a aussi la prise en compte de la biodiversité, il y a le rapport humain, il y a la solidarité. Et j'ai passé un moment merveilleux.
Et puis prendre le temps aussi, on ne prend jamais le temps.
Je ne prends jamais le temps. Je ne sais pas ne rien faire. Et c'est vraiment, je m'auto-fatigue non-stop. C'est terrible.
C'est un peu chiant ça au quotidien de s'auto-fatiguer.
C'est surtout chiant pour les autres. Parce que même de voir les autres assis dans un canapé, ça m'énerve, tu vois. Donc j'en suis à un point où je suis devenue totalement intolérante à l'oisiveté en général. Mais vraiment, c'est dingue.
Pourtant, quand on vieillit, il paraît qu'on savoure un peu plus.
J'essaie de respirer, de me poser, je vais voir mes poules, je parle avec elles. J'essaie vraiment de me transformer intérieurement, vois-tu.
Élodie Gossoin, vous animez aussi le meilleur du plus grand cabaret du monde tous les samedis sur Gulli.
Oui.
On retrouve tous les artistes qui ont fait les belles heures du plus grand cabaret du monde, l'émission culte animée pendant 20 ans par Patrick Sébastien. Est-ce que tu l'as vu?
Je l'ai vu plein de fois.
C'était... Non, mais on s'en fout.
Ah! Est-ce que tu l'as vu? Ah mais Patrick, j'ai une passion pour Patrick parce que il s'en fout, il est comme il est authentique et moi j'adore ça. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui, c'est pour ça que je suis très fière aujourd'hui d'incarner ce programme parce que l'histoire est belle. J'ai travaillé avec lui sur les années bonheur et forcément on a travaillé ensemble sur ce meilleur du plus grand cabaret du monde. Et je suis très heureuse et quand il faut chanter avec Patrick, je chante avec Patrick.
Donc est-ce que tu l'as vu? C'est vrai, tout le répertoire. Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Oui.
Oui, ça dépend lequel.
à Raoul.
Bah, je ne l'ai jamais vu, mais je la chante. Voilà.
Tous ces titres, évidemment, sont dispo sur l'album Olé Osé. Par exemple, là, je sais qu'il y a une émission qui arrive bientôt sur le camping. Ça, c'est carrément d'actualité, en fait.
Ah, mais c'est soirée camping à fond, ça. Qui n'a pas chanté, sauté tout serré? Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte,
chante le sardine.
Non, mais grave. Je sais pas si c'est moi l'âge et que je deviens... Je sais pas si c'est moi ou le monde qui nous entoure, la société, mais on a tellement besoin de ça, en fait.
Je pense que ça
joue. Folie.
Ça joue aussi.
Mais ouais, de joie de vivre, de feel good, de sourire entre nous, de lâcher, quoi. Et d'être heureux au jour le jour.
Élodie Gossoin, l'émission sur le camping, ça s'appelle... C'est original, vive le camping.
Bah, au moins c'est clair.
Exactement.
Tu vois, c'est simple. Droit au but.
Je vais quand même vous demander en quoi ça consiste.
Ah, bien sûr.
Bah. Parce que c'est pas si clair que ça.
Bah, en fait, le camping. Non, en fait, on suit des familles. C'est dans les yeux des familles. Bah, c'est pareil de faire découvrir des pépites aux quatre coins de la France, mais avec des lieux. Bah, montrer aussi l'accessibilité pour les familles. Et tu vois, les petits trucs cachés, c'est vraiment. Révélateur de la vie vécue par ces familles et avec voilà une approche différente en fonction des familles. Mais tu bascules de l'élection de Miss Camping que j'ai gagnée en 1995 quand même.
C'est
donc
vrai?
Je suis très très fière. Ouais ouais. Entre deux soirées mousse, j'ai gagné l'élection de Miss Camping et ça je suis pas peu fière.
Élodie Gossoin, on le rappelle, donc va falloir prendre des notes parce qu'il y a beaucoup de choses. Le jeudi soir sur Gulli, le meilleur du plus grand cabaret du monde. Le samedi à 17h30 sur M6, la meilleure destination de vacances. Et on bascule ensuite le soir sur Sister. Élodie Gossoin, dans le rétro, on va démarrer notre voyage dans le temps. Restez avec nous ici, sur votre radio.
Ouais.
Ici, dans le rétro.
Allez, on enclenche la téléportation. C'est parti pour notre dernier voyage dans le temps sur votre radio ici. Vous naissez à Reims, vous grandissez en Picardie, près de Compiègne. Est-ce que vous avez gardé un peu l'accent de la Picardie? Moi, j'ai gardé l'accent du Schnorr,
ouais.
Surtout quand je m'énerve, misote. Tu vois, je parle comme ça, tu vois, de buloute, là.
Alors, moi aussi, on me le fait remarquer, quand je suis plus je fatigue et plus l'accent revient. Donc avec la fatigue, ça peut revenir sur des intonations assez fortes. Et mes enfants aussi, en fonction, tu vois, pas tous, mais on a tous un petit peu l'accent et on en est fiers, c'est cool.
C'est le même que dans le Schnorr,
bah, c'est un peu
Picardie.
Ça, et c'est un peu les mêmes chansons, tu vois, touche, tiki-pi, c'est notre béro d'un chemin.
Bon, à votre naissance, Élodie Gossoin, vos parents travaillent beaucoup. Votre mère est comptable, votre père est ingénieur en électronique, il se lève à 5h du mat, rentre à 20h, souvent en déplacement, gros bosseur. J'imagine que la valeur travail, c'est hyper important dans votre éducation, ça.
Ouais, c'est vrai. Quand j'y repense, je suis hyper fière d'eux parce qu'ils ont travaillé vraiment énormément. Ils sont depuis peu de temps à la retraite et ils profitent et ils sont ensemble. Et ça me remplit de joie pour eux, de pouvoir profiter d'une retraite méritée.
Ça n'a pas été douloureux?
Si, ça a été douloureux.
C'est la retraite, pas facile.
C'est pas facile, la rupture. Quand en plus tu travailles énormément, de trouver d'autres activités ou une transition, quand tu as la chance de travailler encore un petit peu, enfin de trouver un mi-temps, un truc. Ça a été le cas et du coup, c'est cool. Mais c'est vrai que la valeur travail, c'est vrai que quand tu vois tes parents bosser comme ça, je me suis toujours dit que je pouvais pas me permettre de pas bosser à l'école, quoi. Il y avait vraiment ce truc-là de dire... Il n'y a pas de secret, pour réussir, il faut bosser. Et puis, tu vois, paradoxalement, entre guillemets, j'ai réussi parce que j'étais élue Miss France. Donc, c'est pas avec les diplômes que j'ai eus, mais c'est derrière, il faut aussi travailler sans croire que les choses sont dues.
Surtout pour rester, en fait, pour durer, en fait.
Vas-y, t'es obligé de... Là, tu vas dire, ça fait 25 ans, l'hôtel est vieille.
Absolument pas. Ah, que 25 ans?
Ouais, oui, c'est ça, que 25 ans. Ouais, mais je fatigue beaucoup. Je prends physiquement 10 ans tous les ans. Donc, effectivement, au bout d'un moment, si tu veux.
En fait, si on se revoit dans un an, on parle comme ça.
C'est ça, c'est ça. Exactement. Ou alors, on sera toutes tirées de lifting, de je sais pas quoi. Enfin, on verra.
Élodie Gossoin, on n'a pas la même vision du travail aujourd'hui qu'il y a 20, 30 ou 40 ans.
Ouais.
Vous pensez qu'on a accordé trop de temps au boulot?
Ouais, je pense. C'est ce qu'on pense beaucoup en ce moment. Pour tout le monde, il y a eu le déclencheur du confinement et puis tout le monde de se dire la priorité, c'est quoi? C'est pas d'avoir, c'est d'être. Et d'être, c'est de pouvoir conjuguer le verbe au présent et d'en profiter à chaque instant avec ses enfants. Et que moi, je suis très heureuse d'être à la maison, même pour les devoirs, alors que je tape des crises de nerfs de folie, même pour remplir Parcoursup, alors que ça m'a fait péter un câble, même pour, faire à manger, les accompagner, leur dire 15 fois d'aller se coucher, leur demander s'ils ont pas oublié leur basket, parce que c'est la vie et qu'en fait, c'est ce qui me remplit, quoi. Et j'ai besoin de ça pour être heureuse. Il y a eu des périodes où je suis partie un peu trop longtemps, où j'ai travaillé un peu trop. Mais alors oui, j'ai culpabilisé, et je crois qu'on culpabilise toutes à un moment donné. Mais c'est de trouver un juste milieu. J'ai pas envie d'avoir des enfants pour que ce soit une nourrice, une baby-sitteuse ou une jeune fille au père qui s'en occupe. Mais c'est un kiff comme d'aller de voir mon mec tomber la pelouse, c'est un kiff. Ou moi j'ai nettoyé les vitrières, ben je suis contente.
C'est un kiff aussi.
C'est un kiff. Ça peut être un kiff. Si ça me défoule, je te jure, il y a des trucs que je déteste, genre le repassage jamais de la vie, tout ça. Mais par exemple, nettoyer les vitres, ben là je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression de me purifier en même temps. Je ne sais pas comment t'analyses.
Une petite astuce pour qu'il n'y ait pas de traces?
Alors, j'ai essayé le mix produit vendu en supermarché avec un peu de vinaigre blanc à la base parce que je n'avais pas fait mes vitres depuis, je dirais, 1 an et demi, 2 ans. Donc là, il fallait y aller vraiment à fond, quoi, vois-tu.
Ça marche?
Bah là, ça a marché. Le gros a été enlevé.
C'est super intéressant, cette
émission. C'est génial. Et sinon, tu, comme lessive, tu utilises quoi?
Alors, je sais que vous en faites 14 par semaine.
Ah, c'est l'enfer.
2 par jour.
Je n'en
peux plus. Ça, j'ai halluciné.
Ouais. Bah ouais, et puis pour peu que tu te dises, il faut aussi changer les draps, ou alors ils sont allés à la piscine avec l'école, et le sport, et le machin, c'est un enfer.
Les draps, vous faites un roulement?
J'essaie de faire un roulement, et je t'avoue qu'en plus, je ne repasse pas, mais je ne fais pas non plus sécher, j'ai pas de sèche-linge, donc j'étends tout, même les chaussettes. Et c'est vrai que les lessives, je pense que c'est ce qu'il y a de plus chronophage dans mon quotidien. C'est mon activité principale.
C'est hyper intéressant, donc, cette émission.
Je suis désolée. Vous voulez qu'on parle de sexe, peut-être? Non, ça intéresse
tout
aussi.
À l'heure.
Ah, bah, ok.
Bah, pour que nos auditeurs et nos auditrices restent jusqu'au
bien
bout.
Bien sûr.
On part en 1983, Élodie Gossoin. En même temps, c'est moi qui pose les questions, donc si je vous amène là-dessus, évidemment. Alors là, on est chez vous. Dans une grande maison à côté de Reims, votre maman fait les cartons, vous allez vous installer avec elle dans un appart, puis partir pour la Picardie avec elle. La raison, c'est que vos parents se séparent, vous avez alors 3 ans. On a peu de souvenirs à cet âge-là. Est-ce que ça veut dire qu'un divorce, ça peut être moins douloureux quand on est si jeune?
Je crois pas. Les souvenirs sont différents, sont plus diffus. Mais alors effectivement, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Par exemple, mon mec me dit qu'il n'a aucun souvenir avant ses 10 ans. Moi, j'ai énormément de souvenirs. Je pense que, alors, je ne suis pas psy, d'ailleurs, si quelqu'un a la réponse. C'est vrai que, je suis en train de faire ma thérapie, ben voilà. Je pense que j'ai des souvenirs de ce qui est traumatisant. Donc ouais, j'ai des souvenirs de notre départ, de cette chambre-là, parce que ça va pas à la maison, qu'il se passe des choses. Et ouais, j'ai des souvenirs, j'ai plein de souvenirs. Même de l'appart où j'ai vécu seule avec ma mère, j'ai des souvenirs. Et c'est pas parce que j'ai revu des photos, il y en a pas.
C'est ce que j'allais vous dire.
Donc c'est vraiment des souvenirs.
Donc c'est forcément que si on a des souvenirs à cet âge-là, si jeune, c'est des traumatismes,
je
en fait.
Pense. Moi, je pense que ouais. Je sais pas si un psy peut nous répondre.
Ouais,
ça m'intéresserait
bah oui.
De savoir. Si c'est possible de faire la consulte gratos aussi,
ce serait
intéressant.
Sympa.
Voilà.
Aujourd'hui, Élodie Gossoin, vous dites « J'ai 2 papas. Un père, une mère, un divorce, donc une mère, un nouveau mec. » Vous dites « J'ai 2 papas, mais vous dites pas « J'ai 2 mamans. »
Ah bah non. Ah bah j'ai qu'une maman. Et j'en ai qu'une. C'est ma mère, c'est la meilleure au monde et j'en ai qu'une, pour toujours. Et puis j'ai 2 papas, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais après, je pense qu'on a tous ou cette situation familiale, directement, indirectement, etc. C'est de prendre conscience que être parent, c'est pas être géniteur. Et donc forcément, on a plein et beaucoup son beau papa ou belle maman, que le rôle est d'ailleurs très difficile, je pense même encore plus compliqué que celui de parent. Et que j'ai une admiration folle et un amour infini pour le père qui m'a élevée. Et en même temps, j'ai réussi à garder un lien avec celui qui m'a faite et qui est dans nos vies, dans la vie de mes enfants. Donc c'est formidable pour mes enfants. Ils ont la chance d'avoir actuellement 3 grands-pères, quoi.
Quand vous parlez des beaux-parents, des beaux-papas ou des belles-mamans, qu'est-ce qui, pour vous, paraît essentiel pour justement essayer de s'intégrer dans une famille? C'est pas simple, hein?
Bah, justement, c'est marrant, j'en parlais hier. C'est hyper compliqué parce que justement la personne venait de se séparer et c'est ultra douloureux parce que l'attachement, l'affection pour l'enfant et l'absence de droit une fois qu'il y a une séparation, c'est terrible. Elle me dit, le gamin me manque beaucoup plus que le mec, quoi, tu vois, et c'est vrai, je l'entends. C'est super dur parce que t'as pas de droit, t'essaies de pas avoir la responsabilité parentale, mais il faut bien que tu mettes des règles et que t'existes au sein de la famille. Mais t'as pas envie de te prendre dans la tête, c'est bon, t'es pas ma mère ou t'es pas mon père. Et c'est ultra difficile, t'essaies d'être cool, enfin, d'essayer de trouver sa place.
C'est très dur.
C'est, je pense, très dur. Et pourtant, bah, moi, ça, je n'ai pas à le gérer. Mais je l'ai vu en ayant des beaux-pères ou des belles-mères. J'ai eu de tout, quoi.
Et est-ce
compliqué.
Que vous étiez du genre, à un moment donné de votre vie, à dire t'es pas mon père, t'es pas ma mère?
Jamais. Jamais, parce que j'ai eu la chance d'être élevée, par un homme qui est admirable et que j'aime profondément et qui a tout donné pour nous éduquer. Ma sœur, mon frère et moi, ouais.
En général, Élodie Gossin, vous n'aimez pas parler de famille recomposée, de beau-père, de belle-mère, de demi-frère, de demi-sœur.
Je déteste ça. Ah mais pourquoi tu dis ça? Je déteste. C'est vrai que je te dis non, c'est mon père, ma sœur et mon frère. Je déteste ça. Il y a pas de demi. Ou alors après, par exemple, mon mec va faire des vannes sur ça parce que lui, il a un tiers de quart de frère. Bah là, ça devient drôle.
Non,
ça,
vous
un
m'avez
tiers...
perdu.
Ah bah
alors un tiers de quart de frère.
Mais c'est, je ne sais même pas. Mais il l'appelle comme ça et là, c'est drôle. Mais ma sœur et mon frère, personne ne peut y toucher. Et normalement, bon, du coup, à part toi, parce que tu me fais peur, je vais te laisser dire demi-frère, demi-sœur. Mais normalement, c'est interdit.
Ouais. Élodie Gossin, on va continuer ce voyage dans le temps dans un instant, ici sur votre radio, c'est dans le rétro.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Élodie, vous grandissez à Compiègne, Vieux Moulin, Varenval, dans l'Oise. À 8 ans, vous êtes une petite fille modèle, des rubans dans les cheveux, des petites robes à volant, du rose partout, vous jouez à la princesse. Là, évidemment, vous me dites que je raconte n'importe quoi.
Moi, j'étais très garçon manqué, mais très paradoxalement, oui, je rêvais un jour de la belle robe blanche de princesse, je me déguisais. Pourquoi je me souviens de ça maintenant? On avait fêté le bicentenaire de la Révolution, donc bah, forcément en 89, quelle surprise. Bah, je me déguisais en Marie-Antoinette, mais j'étais Marie-Antoinette, j'étais trop fière, tu vois. Bon, pour l'instant, je survis, moi, mais tu vois, j'adorais le côté robe... Ça faisait partie des contes de fées de petites filles. Ouais.
Mais à côté de ça, vous voulez être comme les garçons. Vous êtes casse-cou, vous avez plein de cicatrices, vous n'avez que des copains, très peu de copines. Vous êtes aussi une très bonne élève. Téléportation. Nous sommes au collège, vous êtes une élève studieuse, vous faites partie des premières de la classe. Il fallait absolument que vos parents soient fiers de vous. Pourquoi c'était une nécessité, ça? Est-ce que ça l'est encore, d'ailleurs?
Ouais, ça l'est encore. Ça l'est encore, j'aurais du mal à m'affranchir totalement de la vie de mes parents, même aujourd'hui à 44 ans, parce que j'ai ce besoin de, bah, d'avoir leurs conseils, mais aussi la fierté dans les yeux. Il y a ce truc-là de transmission, et je le vois, j'essaie d'être un peu moins exigeante avec mes propres enfants, tu vois. Par exemple, là, ils passent le bac, je sais que ma fille me dit « je sais que tu seras fière si j'ai la mention très bien ». Je dis « mais tu dois être fière toi pour toi ». Et ouais, c'est important, mais j'avais besoin aussi, moi, de me dire que je valais quelque chose. Tu travailles et tu veux être récompensé pour dire que t'accèdes à un truc et que c'est cool d'avoir des félicitations plutôt qu'une exclusion. Enfin, tu vois, c'est juste...
Mais quand vous voulez rendre fiers vos parents, en général, ça met la pression aussi.
Grave. Ouais, je me suis mis...
Et ça met trop la pression,
parfois. C'est vrai que ce truc de réussite, ce qui fait qu'à un moment donné, tu bascules et il y a forcément une période où tu lâches l'affaire. C'était le cas parce que je suis allée en fac de médecine après. J'ai pas foutu grand-chose. Donc de toute façon, tu peux pas toute ta vie être sur ce fil et tirer, enfin justement, et tirer sur la corde, en fait. C'est ça l'expression.
Justement, il y a un moment dans la vie où il faut se libérer de ça. Ouais. On fait les choses pas pour rendre fiers nos parents, finalement, mais pour vivre notre propre vie, comme c'est on l'entend. Comment vous faites justement avec vos enfants? On a envie qu'ils réussissent, en même temps, faut pas les écraser, faut qu'ils aient confiance en eux, mais c'est en même temps, on veut qu'ils se surpassent, en quelque sorte.
Bah, t'es là pour essayer de les pousser un peu, mais t'essayes de les pousser sans leur dire qu'il faut absolument tel ou tel parcours, telle ou telle réussite. Par exemple, je les ai choisir totalement leur orientation de spécialité en première en terminale, leur choix sur Parcoursup. J'ai juste dit que là où ils iraient, bah, j'essaierais de les aider financièrement. Que même s'il lâchait l'affaire au bout de 2 mois parce qu'il prenait conscience que c'était pas il n'était pas heureux, bah il pouvait abandonner, que t'avais le droit à l'échec et à l'abandon. Et c'est vrai que c'est un peu le côté, je suis pas maman Montessori, mais j'essaie vraiment de transmettre le côté aie confiance en toi, tu vas y arriver.
Mais vous n'avez pas peur?
Bah, j'ai peur tout le temps pour eux. Mais quand t'es parent, c'est ça le pire, t'es pas préparé à ça. On te parle de la grossesse, de l'accouchement, du bain, des premiers jours, des premiers mois, des mauvaises nuits. Mais le pire, c'est en grandissant. C'est quand tu commences à leur lâcher la main que tu ne sais plus où ils sont et avec qui. Ils viennent d'avoir le permis, mais je meurs à chaque fois qu'ils prennent le volant. C'est un enfer à vivre, c'est-à-dire que je vis avec la terreur permanente. Et ça c'est hyper compliqué d'être
comment
parent.
Comment vous gérez ça?
Bah, je
justement,
gère pas.
Pour pas être trop intrusif, mais en même temps dire, on est là.
Je les géolocalise tout le temps, déjà. Et je leur demande de m'envoyer des messages tout le temps. Donc ils me disent « Maman, t'es relou, on n'est même pas encore arrivé. » J'appelle généralement 5 minutes, ils sont même pas encore arrivés, que je suis déjà en train d'appeler. Mais ils savent à quel point que l'inquiétude, c'est parce que je les aime et c'est pas un manque de confiance. J'ai confiance en eux, mais absolument pas confiance en ce monde qui nous entoure.
Ce monde vous fait peur quand on a des enfants, jeunes ados, Ouais, ça vous fait peur.
Ça me fait peur.
La mauvaise rencontre, le...
ouais, et
la violence.
La violence, la gestion de la différence en général. Et puis parce que globalement, tu peux plus regarder les infos quand tu es en famille. Et que tu ne sais même pas ce qui va arriver au jour le jour. Il se passe toujours un truc et tu te demandes quelle est cette escalade et jusqu'où va-t-elle s'arrêter. Et puis moi, de mes premiers, j'étais enceinte en 2007. Jamais j'ai imaginé que j'allais leur offrir ce monde-là. Ils ont grandi en ayant peur de dessiner à l'école primaire avec Charlie, en ayant peur qu'il m'arrive un truc parce que j'étais en direct à la radio tous les matins. Ils ont eu le confinement, l'adolescence, le masque, le machin. Tu vois bien les conflits partout dans le monde depuis des années. Tu te dis, juste vous avez raison les gars, sortez avec vos amis aussi, profitez, faites au mieux, essayez de trouver votre voie, mais juste pour être épanoui, il faut pas que vous soyez le matin à vous lever en vous disant, ce boulot me fait chier, c'est pas ce que je voulais faire. Effectivement, peu importe la voie, soyez juste heureux, c'est pas compliqué. Et au final, si, c'est super compliqué, mais ouais. c'est tout ce que je leur souhaite.
Élodie Gossoin, j'aimerais qu'on parle maintenant de votre dépucelage de langue à 13 ans.
Oh putain,
tourne pas toujours ta langue dans le même sens.
Mais attends, mais c'est mon style de roulage de pelle. Mmh. Chacun son style de roulage de pelle. Heureusement que tout le monde n'a pas la même technique.
Le roulage de pelle, le premier amour, c'est important dans la vie d'un ado. Les relations parents-ado changent par rapport à ce que nous, on a connu. L'amour, la sexualité, le consentement sont des choses dont on doit parler à la maison, selon vous.
Mais grave. Moi, je les ai saoulés très jeunes, où justement, ils me disaient « Maman, t'es gênante ». T'es gênante, ça fait déjà 10 ans qu'ils me le disent, parce que j'essayais vraiment d'aborder différents sujets. Bon, en fonction de l'âge, évidemment, avec certains mots. Mais on a parlé de tout très vite, de la liberté aussi, de leur chance aussi d'être dans un pays où ils pouvaient choisir leur orientation éducative, culturelle, religieuse, sexuelle. Et on a parlé de tout très vite. C'est ce dont je suis le plus fière, c'est de la relation avec mes enfants, vraiment. Sur la confiance, on parle tout le temps et ils me cachent forcément des choses, j'en ai confiance. Mais ils savent que s'il y a un souci, c'est plutôt voudrait le dire à maman, elle va nous aider, que plutôt elle va nous engueuler. Donc ça, c'est cool.
Élodie Gossoin, plus jeune, vous étiez complexée à l'école. Ça ne vous a pas empêché d'avoir pas mal de petits copains quand même au moment de l'adolescence. On a la liste. Et d'ailleurs, plus que la liste, en fait, pour la dernière émission, on en a retrouvé certains.
Arrête.
Et je les invite du coup à nous rejoindre dans le salon.
Arrête !
Dans le studio.
Ah non, mais tu m'as pas fait ça.
Et je joue super bien, non ?
Arrête, ah, tu m'as fait peur. Mais t'imagines l'angoisse, il y a vraiment un ex, un mec qui m'a largué, il faut que je me venge. Je me suis fait larguer tellement de fois, tu peux pas imaginer. Mais c'est possible, parce que je sais pas comment t'aurais eu les noms, mais bon, tu connais quand même. Non, t'aurais pu récupérer des noms, je suis sûre.
Ah, je vous ai bien eu.
Ouais,
c'est vrai. Vous êtes un peu décomposé.
J'ai eu trop peur. J'imagine, il y a Ludovic et Romain qui débarquent.
Vu que j'arrête la radio, je vais peut-être pouvoir me lancer dans une carrière de comédienne.
Ouais, c'est possible. Okay. Pas mal. J'y ai vraiment cru. J'ai vraiment flippé. Au secours.
Élodie Gossoin, vous restez avec nous.
Avec plaisir.
On revient tout de suite ici sur votre radio.
Ici, dans le rétro.
Élodie Gossoin, bac S, mention bien, fac de médecine, enfin tentative, études d'infirmière.
J'ai pas eu de mention, c'est sympa, j'aurais préféré...
Je croyais que vous aviez eu une mention bien.
Je suis tellement honnête, ça m'a fait plaisir de l'entendre, mais non, c'est pas vrai.
Non, on n'a pas entendu, on garde.
Mention très bien, avec 18,5 de moyenne au bac.
Voilà.
Mytho.
On part en 1998. Nous sommes à Compiègne. Vous venez d'être élue Miss Muguet. C'était pas du tout prévu. Vous aviez à la base accompagné une pote à vous. Est-ce que vous pensez que c'était écrit? Et est-ce que vous croyez au destin de façon plus générale?
Je pense que oui. Et plus ça va, plus j'y crois. Tu vois, il y a des gens que je rencontre ou des choses qui se produisent au quotidien où tu te dis, ça a un sens, quoi. Après, de dire que c'était écrit, tu te dis que j'ai juste été là, en tout cas, au bon endroit, au bon moment, et tant mieux pour moi. Voilà. C'est tellement pas cartésien, mais oui, je crois aux circonstances et en tout cas, ouais, au destin, quoi.
Vous dites que vous y croyez plus aujourd'hui?
Ouais. Disons que, notamment dans notre univers professionnel, plus ça va, plus la seule chose à laquelle je me fie, c'est mon intuition. Et elle ne m'a jamais trahi et je pense que c'est important de s'écouter. Parce que c'est important de se sentir bien et en harmonie avec les gens avec lesquels tu travailles et là où tu es. Et c'est vrai que j'ai plus envie de me forcer, non pas que je me sois forcée, mais il y a des fois, tu sais, que ça te correspond moins, ou qu'humainement, ça va moins bien. J'ai juste envie de m'écouter et de me fier à mon intuition. C'est, je pense, ouais, la meilleure chose qui soit pour soi.
C'est très difficile de s'écouter parce qu'on a ces pensées, ces croyances limitantes.
Ouais.
De par l'éducation, de par le système, de par la société, c'est super dur.
C'est dur. C'est dur parce qu'en plus, en fonction de où tu es, oui, il y a des schémas aussi. Et du coup, tu essaies aussi, toi, de t'intégrer à certains moules, que ce soit sociétaux ou familiaux, etc. Mais je m'affranchis de plus en plus pour être de plus en plus moi-même. Ouais.
Vous vous foutez du regard des autres ?
Ouais, j'ai appris à dire non aussi. Ça, ça a été très libérateur. Mais non à une proposition de boulot qui me ressemblait pas, ou dont les valeurs sont pas en adéquation avec les miennes, et c'est sans prétention, c'est juste mes valeurs, et je me sentais pas à l'aise. J'ai appris à dire non au dîner avec des cons, non aux sorties si j'ai pas envie de voir telle ou telle personne, et je me moque un peu du fait qu'on puisse dire que, ou je me la raconte, ou que je, parce que j'ai déjà eu ce genre de réflexion, de, elle se prend pour une star, ou machin, ou de gens qui apprécient pas que tu refuses, mais si j'ai pas envie, bah c'est pas grave, je préfère m'écouter, vraiment.
Dire non sans culpabiliser, alors.
C'est compliqué. Et ça, c'est compliqué. Parce que forcément, tu culpabilises. Tu vois bien que d'autres personnes peuvent ne pas comprendre. Mais je demande juste, c'est de faire en sorte qu'on respecte tes choix à toi. Et ça, c'est dur.
Et dire non sans arranger la vérité ?
Alors, c'est une qualité, mais c'est mon plus gros défaut parce que ça me serait très utile. Je suis incapable de mentir. Donc, je peux vite passer à autre chose, mais je ne pourrais pas mentir. Vraiment. Et tu peux demander à mon mec ou à n'importe qui, c'est, même mes enfants se moquent de moi. On joue au loup-garou à la maison ou à ce genre de jeu. Mais je suis grillée immédiatement. C'est un truc de malade. Tout le monde se fout de moi à la maison. Vraiment.
C'est une qualité.
Moi, je sais pas. Parce que des fois, ça peut être utile d'être un peu hypocrite, hein. Bon, voilà.
Vous n'avez jamais été hypocrite? Ah, mais si, c'est une question de politesse, parfois.
Diplomate, ouais, hypocrite, sans doute, mais sans mentir. Tu vois, je sais pas où est la nuance, mais sans doute, parce qu'il y a des fois, tu vois, il y a des trucs qui se disent pas, quoi.
Élodie Gossin, vous devenez ensuite Miss Picardie en 2000, puis sélectionnée pour l'élection de Miss France Téléportation.
Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Élodie. Je fais super bien Jean-Pierre Foucault.
Ah ouais, ça aussi, c'est un vrai
c'est
talent.
Super.
Ouais.
Nous sommes le 9 décembre 2000 à Monaco. Vous venez d'être élue Miss France. Il y a quelqu'un qui va rejoindre votre famille à ce moment-là, c'est Geneviève de Fontenay. Vous avez toujours été loyale envers elle, peu importe ce que les gens pouvaient dire. Vous dites que Geneviève a fait partie de votre famille. Elle y est entrée, elle y est restée et elle y est encore. Comment elle peut y être encore alors qu'elle nous a quittés en 2023 ?
Bah parce que je considère que c'est ainsi pour les gens que tu aimes, même quand tu ne les vois plus. Parce qu'elle a toujours une place et je pense souvent à elle. Il y a plein de circonstances de vie qui font qu'elle est présente. Et j'oublie pas, on n'oublie pas les gens quand ils meurent, tu vois. Donc elle fait toujours partie, pour plein de raisons, de ma vie.
Élodie Gossoin, on sent que vous éprouvez beaucoup de reconnaissance aussi envers Geneviève de Fontenay. Être reconnaissant, c'est une vertu importante ?
C'est essentiel. Ouais, c'est essentiel. Et je sais que toi-même, tu sais, parce que... À chaque fois, je parle de notre milieu professionnel, mais je pense que dans tous les milieux sociaux et tous les milieux professionnels et tous les milieux familiaux, quand tu manques de reconnaissance, bah, tu oublies, en fait, de te construire avec des fondations solides. T'es prêt, je pense, ben, pour beaucoup, en tout cas, à te servir des autres pour avancer, ou à écraser, ou à critiquer, ou en tout cas, à omettre certaines phases de ton passé. Tu vois, comment aujourd'hui dire, ah, ben, moi, on parlait plus de Miss France, je suis passée à autre chose. Ben, non, ça fait partie de ta vie. Et globalement, en fait, je pense que c'est important d'être reconnaissant. Comme avec les gens qui t'ont donné une chance, qui t'ont fait confiance, qui te regardent dans les yeux, et de savoir ne t'entourer que de personnes comme celle-là. Et c'est dur dans la vie de faire le tri. Et moi, c'est ce que je m'évertue à faire au quotidien, quoi.
Être reconnaissant vis-à-vis des gens qui nous ont aidés, mais avoir de la rancœur envers ceux qui nous ont mis des bâtons dans les roues ?
Je sais pas si c'est de la rancœur, mais en fait, j'ai vraiment appris à être indifférente. C'est-à-dire que les gens, et j'en ai une belle liste aussi, qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait souffrir, etc., c'est que je sais que pour la plupart aussi, ils ont besoin eux-mêmes de reconnaissance. Et donc de les zapper complètement de ta vie, je pense que c'est la plus belle des réponses. Vraiment. C'est pas facile parce que des fois, t'as un peu un petit truc de « Ah, s'il pouvait lui arriver un truc » ou « La vengeance » ou le machin. Mais en fait, je zappe parce que j'estime que j'ai une telle quantité d'énergie à donner et je n'ai pas cette énergie à donner aux cons. Voilà. Donc, je préserve cette énergie pour les gens qui ont du bien à faire, qui me font du bien, pour ma famille, pour les gens que j'aime et pour les gens que je peux regarder en face dans les yeux et qui, je sais, ne me trahiront pas.
C'est une façon de vous préserver aussi.
Je suis obligée. Je pense qu'on est obligée aussi. Parce que je suis en même temps très fragile et assez naïve. Donc, je suis obligée de faire ça et de me mettre dans cette bulle-là pour pas me laisser attaquer parce que c'est trop facile sinon.
Qu'est-ce qui vous fait mal ?
Il y a tellement de choses qui me... La condescendance, je déteste ça. Oh là là. Le mépris en général. Je vais sortir des trucs que des magots, mais il y a plein de choses qui me font mal. C'est... c'est l'injustice en général. Alors, ça fait très Miss France, mais comme réponse, quand ça marche pas au mérite, notamment dans le travail, je trouve ça assez injuste et ça peut m'énerver vraiment foncièrement. Et je déteste le conflit en général. Donc ça, c'est un truc, c'est pas que je le déteste, ça fait aussi réponse de Miss France, mais c'est pas vrai. C'est pour ça que je préfère l'indifférence, parce que je n'aime pas être en conflit avec les gens, j'ai besoin de paix, quoi. Moi, de paix.
Vous évitez les conflits.
J'évite les conflits, donc je zappe quand il y a... Je préfère zapper, parce que je peux pas, ça me bouffe trop, quoi, sinon.
Élodie Gossoin, Miss France, Élodie Gossoin, Miss Europe, vous faites du mannequinat en 2004, vous devenez conseillère régionale de Picardie, et en 2006...
Je te promets des nuits rouges comme tes rêves, des heures incandescentes.
On peut couper le son juste pour l'entendre chanter ?
Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches.
Faut pas se lancer dans la chanson, par contre.
J'ai déjà essayé le you. Mais j'ai le droit de chanter quand même. Tout le monde a le droit, c'est beau, ça fait du bien.
Nous sommes le 1er juillet à Compiègne, vous dansez avec Bertrand, c'est le jour de votre mariage, un amour qui dure depuis près de 20 ans. On voit à quel point vous êtes complices, à quel point vous vous aimez. Est-ce que vous vous engueulez souvent ?
Heureusement que tu as dit, parce que je pense que j'allais me mettre à pleurer, mais vu la question, ouais, c'est oui aussi, on s'engueule souvent. Mais on s'engueule parce que c'est la vie et juste tu connais les limites de l'autre et que heureusement que c'est pas un long fleuve tranquille et puis c'est normal d'avoir des divergences et de pas être d'accord sur l'heure du sommeil ou de la bouffe pour les gamins, de pas être d'accord avec les devoirs, avec les enfants sont source de conflits plus que tout le reste. Puis il y a des périodes de vie où quand les enfants ils sont en bas âge, quand t'as plus de nuit, que c'est entrecoupé 5 fois, etc., tu pètes un câble. Et il y a des périodes où on pouvait même plus s'adresser la parole, mais tellement on était à bout, quoi. Et ça, c'est humain. C'est juste de réussir à construire ensemble et de se dire, est-ce qu'on lâche l'affaire ou est-ce qu'on continue à avancer? Et voilà. Et il y a des périodes où c'est dur, mais je sais que c'est l'homme de ma vie, donc je me battrai toujours.
Oui, parce que dans les moments difficiles, on pourrait se laisser aller et se dire stop, ça suffit, et se barrer en fait.
Je pense oui. Et puis ça dépend aussi pourquoi, quel conflit, quelle situation évidemment. Mais ouais, on a toujours eu envie de se battre parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde de rencontrer son âme sœur. Et moi j'y crois, je sais que c'est lui. Et c'est pas parce qu'il faut rester dans une cellule familiale structurée, c'est pas parce que c'est le père de mes 4 enfants, mais c'est la somme de tout ça quand même.
Vous dites, j'ai confiance en lui, mais je suis très jalouse. On dit que la jalousie peut parfois bouffer la vie d'un couple.
C'est vrai, je pense que c'est vrai, ça peut bouffer. Quand t'espionnes, quand tu regardes les historiques, quand tu mates le téléphone, quand tu te demandes à quelle heure il fait quoi, il devrait être là, il est où, que tu regardes le linge, que machin. Moi, ça me bouffe, mais ça me bouffe plus parce qu'on en joue l'un et l'autre pour parfois raviver la flamme, tu vois, de le faire exprès. Des fois, je vais le provoquer en disant « Ah, j'étais là. Ah, du coup, il était vachement sympa. Beau gosse. Mais tu fais exprès pour provoquer ou dans la rue. Ou mais même nous, à la télé, tu vas voir un mec qui se met torse poil et je fais exprès de regarder. Je fais « Waouh !» Ça va, je te dérange pas. Mais tu vois, c'est des petits trucs rigolos de couple. Et je trouve que quelque part, ça devient drôle et c'est... Ça met un peu de piment aussi dans le couple, de jouer à ça, un petit peu.
Quand on joue à ça, c'est justement qu'on n'a pas de suspicion aussi.
Ouais, je pense
en
aussi.
En règle générale.
En règle générale, ouais, c'est clair.
Quand on commence à fouiller dans le portable ou... Vous le faites ou...
Non, je ne fais pas. Je ne fais pas, mais si tu as des suspicions, je pense effectivement que quand il y en a, vaut mieux aller au bout et aller vérifier et savoir. Un peu le même mode que, tu vois, si tu apprenais que j'étais trompée ou inversement, je pense que quand on est amis, c'est important d'être franche et de le dire.
Vous croyez ?
Ouais, moi je suis mode comme ça. Je suis mode, je ne peux pas mentir à une amie, quoi. Ouais.
Quitte à la blesser profondément.
Ouais, mais je pense que c'est le rôle aussi quand t'es ami. Mais je sais à quel point c'est douloureux et que tu peux te poser la question. Et je respecte ceux qui savent et ne disent pas. Ou, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Sûr. C'est juste que, voilà, moi je suis comme ça et tant pis pour mes amis. Mais j'ai rien à balancer, donc ça va.
Élodie Gossoin, 9 mois après votre mariage, vous apprenez que vous allez devenir maman de jumeaux. Jules et Rose, nés en 2007. On va poursuivre notre voyage dans un instant ici sur votre radio.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
On part maintenant en 2013. Ah.
Je suis en 2013, attends.
Nous sommes chez votre gynéco.
Ah,
ouais. Bon, on va pas rester trop longtemps avec vous. Elle pose la sonde sur votre ventre. Ouais. Sur l'échographie, vous voyez alors 2 poches. Vous comprenez tout de suite que vous attendez à nouveau des jumeaux. Vous dites alors à votre médecin, c'est bon,
stop.
Vous pouvez tout éteindre, je me casse.
Range tout, j'ai dit rangez tout.
Vous vous êtes levé, vous êtes allé vous enfermer dans les toilettes.
Ouais.
Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ?
Tu le racontes si bien que je m'y vois encore. Je me dis que ça ne va pas être possible. J'ai déjà eu 2 enfants, bon, ils ont 6 ans, mais encore 2.
Jumeaux.
Que je ne serais pas capable de les mettre au monde en bonne santé. Et puis, il y avait des choses très pragmatiques. À 25 ans, j'étais enceinte, mais c'était notre rêve d'avoir des jumeaux. Et j'étais dans l'utopie et la naïveté, en n'ayant pas conscience des risques de prématurité, des risques liés à mon travail, à l'absence aussi de congés maternité, l'absence de congés maladie dans notre secteur, etc. Donc, c'était un peu compliqué de me dire comment on va gérer. C'est impossible. Et puis autour de moi, il y avait eu aussi des drames et des deuils périnataux. Donc voilà, c'était un peu, ouais, désolée de plomber l'ambiance. Mmh. Mais du coup, j'avais beaucoup plus d'angoisse et je me suis vraiment dit, mon corps n'y arrivera pas, je n'y arriverai pas, ça va pas être possible. Et puis si j'ai un souci, je peux pas m'arrêter de travailler, j'ai pas le droit à ça. Tu vois, j'étais pas salariée à l'époque. Tout de suite, t'as ces questions-là, puis t'as ton mec qui est juste à côté, puis lui qui dit « Oh, va falloir changer de bagnole !» Ok, bon bah ouais, ça aussi, c'est vrai, il va falloir changer de bagnole. Mais c'est bien une réflexion de mec ou pas, ça?
Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous en avez été capable, finalement?
Oui, mais j'ai eu peur. Et bien sûr que c'est ce dont je suis le plus fière, non pas que mon corps en ait été capable, mais juste d'être leur maman au quotidien. C'est vrai que je me dis, bah, donner la vie, c'est merveilleux, mais c'est plus de les voir grandir et de les voir en bonne santé et s'épanouir. Et voilà.
Et d'être à la hauteur.
Bah, j'essaie d'être à la hauteur, mais de façon très physique, mon grand m'a dépassée depuis longtemps et des fois, je les trouve bien plus à la hauteur que moi-même. Ouais.
Élodie Gossoin, de 2, vous passez à 4 en 2007 avec la naissance de Jules et Rose. De 4, vous passez à 6 avec la naissance de Léonard et Joséphine. 2 fois des jumeaux, ça bouleverse le quotidien. Plus facile de gérer des jumeaux bébés ou des jumeaux ados?
Ah, ça, c'est une vraie bonne question.
Ouais, parce que les autres, elles étaient pourries.
Mais non. Non, parce que c'est la seule à laquelle je n'ai pas la réponse. Ouais, pardon, on aurait pu croire que ça voulait dire que depuis tout à l'heure, je me
non,
faisais
mais
chier,
pas
mais
grave.
Pas du tout. Non, je te promets. C'est une très bonne question parce que, alors, j'en rajoute une couche, mais c'est parce que à l'heure actuelle, en y pensant, tu te dis, ah bah finalement, petit, ça c'est fait, puis finalement, ça allait, ce sera à refaire, je pense que je pourrais gérer. Alors qu'en ce moment, je suis pleinement les pieds dans la mouise de la gestion de la puberté, des sorties du permis, de Parcoursup, des problèmes de changement de corps, des problèmes relationnels, etc. Et des angoisses de parents, si je parle à titre purement égoïste, alors que petit, c'est vrai qu'à titre égoïste, je savais où ils étaient. Ils sont dans leur bulle et tu les protèges. Le plus dur en grandissant, c'est justement de les voir te lâcher la main et d'avoir peur pour eux. Tu vois, parce que j'ai peur pour eux tout le temps. Même quand je les dépose au collège et qu'ils sont dans le collège, j'ai peur, tu vois.
Ouais.
Et je sais que tu sais ce que c'est, je sais que les parents comprennent ça et moi, je ne sais pas comment gérer ça.
Élodie Gossoin, l'émission touche à sa fin. J'ai une dernière question. C'est quoi d'être comme tout le monde ?
J'en sais rien.
Bah non, fallait me répondre, c'est chiant. C'est quoi d'être comme tout le monde ?
Bah c'est chiant. Ouais, c'est ce que je dis toujours à mes enfants. En plus, je leur dis tout le temps ça. Parce qu'ils ont chacun à leurs différences et des fois des différences qui sont considérées comme handicapantes et qui le sont. La dyslexie, la dysorthographie, HPI et tout ça. Enfin, moi, j'ai une belle panoplie. Donc, les orthos, les machins, les pédopsies. Mais à chaque fois, c'est de dire à mes enfants... Est-ce que tu as envie d'être vraiment comme tout le monde ? Donc, c'est de dire, être comme tout le monde, c'est quoi ? C'est chiant ! Bah oui, c'est bien de cultiver sa différence et de la revendiquer, mais quand t'es ado, c'est trop compliqué. Mais je sais que ça viendra avec le temps et je leur souhaite.
Merci Élodie Gossoin.
Merci à toi, Déborah.
Rendez-vous
sur M6 pour la meilleure destination de vacances, sur Gulli pour le meilleur du plus grand cabaret du monde et sur Sister pour vivre le camping. On va vous mettre toutes les infos sur la page internet de l'émission Dans le Rétro. Merci. Je voudrais juste terminer avec un petit mot pour vous tous qui avez remonté le temps avec nous depuis toutes ces années, avec nos invités. Je vais peut-être pas y arriver.
On est là.
Donc, dans le rétro, cette émission, en fait, à chaque fois que je l'écrivais, je vous imaginais de l'autre côté. C'était pas juste recevoir une personnalité, c'était s'interroger sur la vie, sur nous-mêmes, sur la société, sur notre humanité, nos colères, sur ce qui pouvait nous rassembler, nous faire réfléchir, nous réconforter, nous motiver. C'était des moments de vie dans lesquels on pouvait parfois se reconnaître. Je vais vous confier quelque chose. Pendant toutes ces années, j'ai peut-être été un peu égoïste parce que j'ai pensé à mon plaisir. J'ai posé les questions que je me posais, en prétextant que c'était pour mieux connaître un invité. J'en ai appris beaucoup sur eux, mais surtout sur moi. Et puis finalement, je me suis rendu compte à quel point ça vous faisait du bien aussi. Je vous ai lu, je vous ai écouté sur les réseaux sociaux, vos messages, vos vocaux. Il y avait des rires, il y avait des larmes, il y avait des joies, il y avait des souffrances. Je me suis sentie utile, vous avez donné du sens à ce que j'ai fait depuis toutes ces années. De savoir que ce lien risque d'être rompu parce que cette émission s'arrête, ça fait mal. Pour moi, une page se tourne. 12 ans de ma vie, mais c'est réconfortant de savoir que cette émission n'a cessé de rassembler de plus en plus d'auditeurs. Merci pour ça. Merci aussi à France Bleu. Avant de s'appeler Ici, j'ai eu l'occasion de faire d'autres émissions il y a quelques années déjà. 5 sur 5, Talents de vie avec des gens moins connus mais passionnants. Thanatopracteur, éboueur, sans-abri, visiteuse de prison, défenseur de la cause animale. Quelle chance j'ai eu de vous croiser. Merci pour tout. Mais vous savez quoi? On va se retrouver. Je vous donnerai des nouvelles sur Instagram si vous y êtes, parce que les réseaux sociaux, c'est de la merde parfois. Mais c'est aussi grâce à ça que je me suis sentie plus proche de vous.
Vas-y, continue.
Merci à toutes les équipes, des locales, tous ceux qui ont fabriqué cette émission et qui ont contribué à son succès. J'aimerais les citer, mais ça me ferait vraiment chier d'en oublier. Merci aux attachés de presse qui nous ont fait confiance, aux artistes qui se sont montrés généreux, sincères. J'espère qu'on a été à la hauteur. Merci à ceux qui m'ont porté. Merci aux médisants, aux rageux, à ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues aussi. Ça m'a donné envie de tout déchirer. L'avenir n'est pas ici, mais ailleurs. La lumière rouge du micro va s'éteindre dans 2 secondes. Prenez soin de vous, salut.
Prends soin de toi, on t'aime. Bravo.